Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Babel Pongo Massimango.
Bonjour. Annoncé pour ce lundi, la reprise de cours est loin d'être effective à l'université de Kinshasa. Les étudiants restent suspendus à la décision qui sortira de la réunion de leurs professeurs en cours en ce moment sur les campus. Nous serons en direct avec Grace Amzati. Et puis, la circulation routière dans la ville de Lubumbashi, où nous en parlons également dans ce journal, avec le non-respect du code de la route par les chauffeurs des taxis et taxibus dans la capitale du cuivre. Le 4 mars prochain, la ville de Lubumbashi va abriter la 8e assemblée des autorités locales des pays des Grands Lacs. Pour en parler, notre invité, Ghislain Robert Lubaba, le maire de la capitale du cuivre. Bienvenue à cette édition du journal que nous allons vous présenter avec Emma Julie Bekonda. Bonjour Emma.
Bonjour Babel.
Commençons par cette première nouvelle. La reprise des cours n'est pas encore effective ce lundi 24 février à l'université de Kinshasa, contrairement à ce qui avait été annoncé. Et certains auditoires ne sont pas encore ouverts, d'autres qui sont ouverts n'ont pas d'enseignants. En ce moment même, les professeurs de l'Uniki non grève sont en pleine réunion au bâtiment administratif. Les étudiants attendent la décision qui sera prise à l'issue de la dite réunion. Nous avons en direct depuis l'Uniki, Grace Amzati. Bonjour Grace.
Bonjour Babel Mpongo Masimango, bonjour Emma Julie Bekonda et bonjour aussi à tous les auditeurs.
Bigras, décrivez-nous un peu l'ambiance qui règne en ce moment sur le campus de l'UNIKIN.
C'est une ambiance contre toute attente qui règne jusque-là à l'université de Kinshasa. C'est-à-dire, les cours supposés reprendre ce lundi n'ont pas lieu jusqu'au moment où nous parlons. Certains auditoires sont encore fermés, d'autres sont ouverts, mais il n'y a pas d'enseignants. Certains étudiants sont assis par là, d'autres debout, par-ci, dans l'enceinte du campus. Depuis le matin, un groupe d'étudiants manifeste devant les bureaux administratifs pour réclamer l'effectivité de cette reprise des cours. Lassé d'attendre, certains étudiants commencent à quitter le campus. En même temps, d'autres continuent d'affluer, mais rien n'indique qu'ils vont étudier. En ce moment même, les professeurs sont en réunion au bureau, au directeur, au bâtiment administratif. C'est à l'issue de cette réunion qu'elle en saura l'effectivité ou pas de la reprise des cours à l'UNIKIN.
Oui, comment réagissent justement les étudiants face à ce rendez-vous manqué de cours?
En tout cas, Babel, beaucoup d'étudiants interrogés se disent inquiets par les faits qui sont en retard avec les cours, les décès et mémoires. D'autres teignent, en tout cas, l'année blanche, car les professeurs sont en grève après tout ce qu'il y a eu à l'UNIKIN. Bref, les étudiants sont dans la perplexité totale pour étudier encore cette année, d'où ils en appellent à la responsabilité des autorités tant du pays que de l'université de Kinshasa pour sauver cette année académique.
Merci Grace. Nous allons à Lubumbashi à présent. La ville de Lubumbashi va abriter au début du mois de mars la 8e assemblée des autorités locales des pays de Grand Lac, une rencontre qui va accueillir plus de 300 délégués. Radio Kapi poursuit sa série de reportages sur la capitale du cuivre. Après avoir fait état de la voirie urbaine de cette ville, aujourd'hui notre confrère Jean Gandou s'est penché sur le non-respect du code de la route par les chauffeurs des taxis et des taxibus dans cette ville. Son reportage.
La ville de Lubumbashi compte plusieurs centaines de taxis et taxibus peints pour la plupart en jaune. Les lieux de stationnement de ces véhicules pour les transports en commun dans la ville sont bien connus de tous parce que décidé par la mairie de Lubumbashi. Cependant, certains chauffeurs à la recherche des passagers sillonnent presque toutes les artères de la ville. Ils stationnent partout au point de gêner la circulation. Le code de la route bafoué, les instructions données par les agents de l'ordre ignorées. C'est ainsi qu'on peut le voir parfois rouler en sens contraire sur les routes à sens unique. C'est le cas des avenues Mouero, tronçon compris entre les avenues Kassa et Sendwe, le square George Arthur Forest ou encore sur l'avenue Tchangalele à la bifurcation avec les avenues de la Révolution et Kilelabalanda. La présence des éléments de la police des circulations routières à différents endroits ne les dissuade presque pas. S'il y en a qui sont souvent arrêtés à leur véhicule conduit à la fourrière de la police où ils payent des amendes, les autres chauffeurs s'en fichent au vu et au su de tout le monde au point de défier les éléments de la police des circulations routières. Cette manière de se comporter sur la route est à la base des embouteillages et autres cas d'accidents souvent dénoncés par la population. Pour sa part, l'autorité urbaine invite la police des circulations routières à bien jouer son rôle pour mettre fin à cette anarchie constatée à travers la ville. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Une mission composée d'experts de fonds de promotion de l'industrie FPI et de la société Grand International Group, séjourne à Ndomba, dans les territoires de Kabiakamanga dans le Kasaï oriental depuis vendredi dernier. La société Grand International Group est chargée de la construction d'un pont moderne à Ndomba. Ces experts sont sur place pour collecter les données et approfondir les études de faisabilité, cela dans le but de la construction, réhabilitation ainsi que la modernisation de ce port. Explication et stand à la fin.
Depuis leur arrivée à Ndomba, ces experts font des études sur la rivière Lubi et d'autres prélèvent les données topographiques le long de la rive, lieu où sera érigé le port moderne. Des sources sur place affirment que les travaux de construction et de modernisation de ce port consistent à construire le quai, les entrepôts, les bâtiments administratifs ainsi que le terminal pétrolier. Il sera également question d'installer les engins de manutention. Le deuxième volet de la mission est de prélever les données topographiques pour la réhabilitation des routes afin de créer la connectivité économique par voie fluviale entre Kinshasa et trois chefs-lieux de province dont Lusambo au Sankoro, Mbujima au Kasaï oriental et Kananga au Kasaï central. Pour atteindre le port d'Ndomba, trois axes routiers seront réhabilités. Il s'agit de la route entre Mbujima et Tshibassa, la route entre Mbujima et Ndomba ainsi que la route entre Ndomba et Kananga. Signalons qu'au mois de janvier dernier, le FPI a signé le protocole d'entente avec deux sociétés égyptiennes, Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Okapi.
Merci Esther et nous poursuivons ce journal avec vous, Image Julie Bekonda.
Nomination des mandataires de l'État à la tête des entreprises publiques. Notons cette réaction du député national Henri Thomas Lokondo, l'élu de Mbandaka demande que ces sujets ne soient pas politisés. Il plaide par conséquent que ces nominations tiennent compte des critères qui privilégient la compétence et la technicité. Aussi, il dit ne pas comprendre comment, au sein du conseil d'administration de la GECAMINE par exemple, on peut retrouver 16 ressortissants d'une même province sur les 18 membres que compose cette instance. On l'écoute au micro de Richard Junior Kamunga.
Pour la mise en place des mandataires dans les entreprises publiques, il faut d'abord éviter de politiser ces entreprises-là en nommant des gens qui n'ont pas la technicité. Il faut nommer des managers, des gens qui ont l'expérience. Il faut mettre en place un critérium qui définit le portrait robot de ceux qui doivent occuper les fonctions dans plusieurs entreprises de l'État. Par exemple, quelqu'un qui a été condamné, un ancien bagnard, comment vous pouvez le nommer? Quelqu'un qui a été reconnu comme ayant détourné quelque part, comment vous pouvez le nommer? Quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler quelque part, comment vous pouvez le nommer DG? Et je voudrais que les amis qui ont toujours l'habitude de défendre l'indéfendable, de justifier l'injustifiable, puissent me dire comment dans une entreprise qui est nationale, comme la GECAMINE et la SCC, sur 9 membres du conseil d'administration, à la GECAMINE par exemple, 8 sont tous des Katangais. À la SCC, même chose, le président de la République, de par ses ordonnances, donc, a décrété, a donné à ces entreprises le statut des entreprises provinciales privatisées.
En Ituri, les combats se sont déroulés pendant toute la journée d'hier dimanche entre les FARDC et les assaillants de Codeco au village d'Aruga et sa périphérie dans les territoires des Mayagi. Selon l'administrateur du territoire, les bilans de ces affrontements n'est pas encore disponible, mais il signale les déplacements massifs de la population dans la zone. De son côté, la société civile déplore la récurrence des attaques des assaillants qui déstabilisent la région. Elle précise que les activités économiques et scolaires sont paralysés dans plusieurs entités. Plus de détails avec Isaac Raymond.
C'est vers 8h dimanche que les combats ont été déclenchés entre les deux parties vers Aruga, en chefferie des Djoukotes dans les territoires de Mahagi. Selon des sources locales, ces assaillants voulaient progresser jusqu'au centre commercial d'Amé situé à 13 km, mais les FARDC ont arrêté leur progression. Les combats se sont poursuivis jusqu'au soir. Cette nouvelle attaque des miliciens a créé la panique dans les milieux, affirme l'administrateur du territoire intérimaire de Mahagi. Il précise que plusieurs villages sont vidés de leurs habitants. Le président de la société civile de Mahagi rapporte que la population vit dans l'incertitude totale suite aux attaques à répétition des assaillants qui ont paralysé les activités commerciales et scolaires. Il dénonce la passivité des forces loyalistes pour démanteler ces groupes armés. Hilaire Ounenchan.
On est sur les qui-vives, tout le monde ne connaît pas. Est-ce qu'aujourd'hui ils vont encore attaquer? Ils ne vont pas attaquer. Tout ce que nous recommandons, c'est qu'on puisse mener vraiment une opération un peu permanente pour réduire un peu les degrés de nuisance de ces assaillants. Parce que ça devient un peu de trop. Les militaires aussi, au lieu d'attaquer, ils sont là, on attend toujours qu'ils attaquent et puis on les repousse et on ne comprend plus rien.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de l'armée sont restés vains. Signalons que c'est la quatrième attaque des assaillants dans la zone à l'espace. l'espace d'environ 2 mois. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Encore de nouvelles redditions des éléments Maïmaï au FARDC dans la province du Sud Kivu. Deux colonels autoproclamés du groupe Maïmaï Kirikisho ont déposé les armes samedi dernier dans le haut plateau de Kaléyé. Ils viennent s'ajouter à une autre vague des redditions enregistrées il y a quelques jours. La société civile de Kaléyé se réjouit de ces mouvements en cours. Elle lie cela à la campagne de sensibilisation qui se poursuit dans ces territoires. Emmanuel Elameji nous en dit plus.
Il s'agit notamment du colonel autoproclamé Lwabawuma Kabulungu Ngandu qui s'est rendu au FRDC à Tushunguti le samedi 22 février 2020. Il était le commandant deuxième secteur opérationnel du chef de guerre Kirikicho. Lwabawuma s'est rendu avec 2 éléments, 2 armes AK-47 et 3 chargeurs. Dimanche 23 février 2020 dans la matinée, c'est le tour de son collègue colonel autoproclamé Christian Moudekere de se rendre, toujours en territoire de Kaléhé. La société civile du territoire de Kaléhé salue ces gestes de rebelles. Maïmaï a déposé les armes en faveur de la paix. Cette structure citoyenne attribue cet afflux de reddition à la campagne de sensibilisation en direction des communautés et surtout des jeunes à quitter la brousse et privilégier la paix. L'administrateur de territoire de Kaléhé confirme cette information. Dédé Mwamba ajoute que toutes les stratégies sont mises en marche pour que cette fois-ci, le territoire de Kaléhé se vide du phénomène groupe armé. La 33e région militaire, elle, ne confirme pas ces informations. Emmanuel Elamejou Akabedi, Bukavu, Radio Okapi.
En territoire des Rutshuru, au Nord Kivu, 8 présumés kidnappeurs sont aux arrêts depuis la semaine passée à Niamilima, en groupement de Binza. La notabilité de ces territoires souhaite que ces personnes soient jugées dans une audience publique dans la zone où elle aurait commis ces crimes. Le point avec Fiston Mouindo.
Selon une source militaire basée à Niamilima, 2 de ces présumés kidnappeurs ont été arrêtés à Nyakakoma, 2 autres à Ishasha et 6 autres à Niamilima. Selon elle, les 6 kidnappeurs appréhendés à Niamilima détenaient une arme AK-45. En croire ces sources, tous les 8 présumés viennent d'être transférés ce vendredi auprès des responsables militaires du secteur opérationnel Sokola 2 à Rutshuru Centre. Pour la notabilité de ces territoires, il n'est pas question de transférer ces présumés à Goma pour y être jugé. Elle demande par contre qu'il soit organisé des audiences publiques dans l'une des entités où ces kidnappeurs présumés menaient leur entreprise criminelle en mettant en mal la population. Moussa Mukanda Aimé indique que ces audiences, avec leur portée pédagogique, pourraient dissuader d'autres potentiels criminels encore actifs dans la région et permettre à la justice de bien asseoir les preuves de culpabilité sur le prévenu. Moussa Mukanda.
Qu'il nous voulons une audience publique puisque beaucoup déjà qui ont été kidnappés peuvent reconnaître quelques figures parmi ces présumés kidnappés. Nous félicitons le colonel Zahir puisque le travail qu'il fait mérite vraiment l'encouragement.
Goma, Fisto Mwindo pour la radio Okapi.
Voilà les quelques nouvelles que nous avons, Babel.
Merci Emma. Voyons à présent l'actualité en dehors de la RDC.
Actualité internationale.
Au Togo, le chef de l'État sortant fort, Naxibé, reconduit pour un 4e mandat à la tête du pays. Selon les chiffres proclamés la nuit dernière par la CENI, il a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 72,36% de voix. Dans l'opposition, l'ancien premier ministre et opposant Abiyomi Kodjo obtient 18% des suffrages. Le leader de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, arrive en 3e position avec 4,35%. Mais ces résultats sont déjà contestés. Abiyomi Kodjo a dénoncé de nombreuses fraudes. La société civile recense celle de Bourra d'urne ainsi que des inversions de résultats, rapportent nos confrères de RFI.
L'invité.
Le 4 mars prochain, la ville de Lubumbashi abritera la 8e assemblée des autorités locales des pays des Grands Lacs. Cette rencontre réunira des autorités de plusieurs pays sous l'égide de l'Association internationale des maires des villes francophones. La ville de Lubumbashi est-elle prête pour accueillir ce grand événement? Nous en parlons avec notre invité, le maire de la capitale du Cuivre, Ghislain Robert Lubaba, son chrétien avec Jean Gando.
Ghislain Robert Lubaba Bouluma, bonjour.
Bonjour, monsieur Ngandou.
Très prochainement, la ville de Lubumbashi va accueillir une grande conférence. Quelle est l'importance d'une telle rencontre?
Vous devez savoir que la région des Grands Lacs est confrontée à des conflits récurrents. Les rôles des autorités locales consistent à mettre des mécanismes de manière à créer ce que l'on a développé dans d'autres assises, les vivre ensemble. Une fois, on est en train de vivre ensemble, c'est-à-dire avec tous les pays limitrophes, sur tous les pays de Grand Lac, c'est effectivement pour réduire les causes qui sont à la base des conflits que nous connaissons dans les pays des Grands Lacs. C'est autour de l'Association internationale des maires francophones, avec le concours de l'Union européenne, que ces assises seront organisées, bien sûr, avec le concours du gouvernement de la République.
Qu'est-ce que la ville de Lubumbashi pourra tirer comme profit de telles assises?
À partir de ce partenariat avec l'AMF et l'Union européenne, la ville de Lubumbashi travaille sur le projet 2030. Ce projet a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Vous savez que la régie des eaux, pour le moment, a un problème sérieux de sa nappe aquifère. À partir de ces partenariats, il y a des actions qui sont menées ensemble avec les partenaires de l'Union européenne dans le cadre de l'Association des maires francophones pour combattre ce réchauffement climatique qui est à la base de la rareté de l'eau. Le niveau de l'eau a sensiblement baissé. Pourquoi? Parce qu'il y a le réchauffement climatique. Avec les actions que nous sommes en train de mener ensemble avec cet organisme, donc l'AMF, c'est pour lutter contre le changement climatique. Parce que si on ne fait pas d'efforts, la ville de Lubumbashi risque de ne pas avoir de l'eau à l'avenir.
Monsieur le maire, à ce stade, pouvons-nous dire que votre entité est prête à accueillir tout ce grand monde qui va venir?
Les préparatifs vont bon train. On attend que le jour J. Nous sommes totalement prêts.
Mais il y a quelque chose qui pourrait ternir l'image de votre ville, c'est l'insalubrité. Il y a des gens qui viendront de toutes parts. À ce niveau, qu'est-ce que vous en dites?
Vous devez savoir que l'insalubrité, c'est vraiment un fléau. Et c'est vraiment un phénomène qu'on est en train vraiment de combattre. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Mais avec l'appui de la population, nous pouvons réussir. Vous savez, nous sommes pendant la saison pluvieuse. Si la population pouvait comprendre qu'un tel comportement ne peut pas favoriser le développement de notre ville, si tout le monde comprenait cela, ça serait une bonne idée. Vous savez, la gestion des déchets ne doit pas seulement se limiter aux seules institutions étatiques. Il faudrait que la population comprenne que c'est pour leur propre intérêt à pouvoir bien gérer leurs propres déchets. Tenez, nous sommes pendant la saison pluvieuse. Quand il pleut, un citoyen de la ville, il prend un sac, il met les déchets domestiques, il jette sur la chaussée pendant qu'il pleut, tout en espérant que ça va couler. Et quand ça va couler, ça va arriver où? En fin de compte, nous avons l'exemple du tunnel qui est toujours rempli. Pourquoi? Parce que il y a la population qui ne respecte pas certaines manières de gérer les déchets. L'affaire de salubrité, c'est l'affaire de nous tous, de tout le monde. Parce que s'il y a des maladies, ça ne va pas choisir qui que ce soit, donc c'est tout le monde qui est contaminé. Par conséquent, il faudrait que nous-mêmes, nos populations, nous sachions comment faire avec les déchets que nous produisons nous-mêmes. Ces déchets-là sont produits par la population. Malheureusement, on ne demande pas à la population d'enlever, mais on demande à l'État de le faire. Bien sûr, c'est ça notre rôle, mais il faudrait que la population nous aide aussi à bien gérer les déchets. C'est une tâche quotidienne d'arranger la ville. Nous le faisons toujours.
Monsieur le maire, vous savez que le 4, c'est pas loin. C'est dans quelques jours. Pensez-vous qu'au regard de ce que nous remarquons, de ce que nous constatons à travers la ville de Lubumbashi sera la Wantanchi que nous avons connue par le passé?
Vous savez, on peut détruire en un jour ce qui a été construit en 10 ans. C'est-à-dire, c'est ici. Nous devons travailler chaque jour. Nous devons faire comprendre à la population qu'il ne faut pas se conduire de n'importe quelle façon, mais nous y travaillons.
Monsieur le maire, Justin Robert, le Baba Boulouma, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous vous disons également merci à vous qui avez suivi ce journal. Excellent après-midi à vous tous.